C'est quoi, dis ? C'est quoi maintenant ?
Nos rendez-vous du jeudi avec l'onde poétique, une émission de l'ouvre-boîte à poèmes sur IDFM 98.
Bonjour, amis auditeurs. Vous êtes bien sur IDFM 98, la radio du Val d'Oise et du bien-être, pour une émission de l'onde poétique. Et cette émission, celle du quatrième jeudi, s'appelle les fragments poétiques. Donc, dans cette émission poétique, nous recevons ce soir une grande artiste qui est à multiples facettes. Elle est poète, elle est écrivain, elle est auteur, compositeur, interprète, elle est dramaturge, comédienne. Voici, bonjour, Michel Barbier.
Bonjour.
Et cette émission donc sera animée par Claude et Franck Viguier. Et
bonjour.
Bonjour.
Bonsoir même.
Et avec un soutien technique qui sera assuré par Francky Vricor. Eh bien, Michel Barbier, donc ici présente, a vécu l'indépendance de l'Algérie et la déchirure de l'exil. Donc nous allons parler aujourd'hui de la poésie, du souvenir et de la nostalgie qui est celle de l'Algérie de Michel Barbier. Elle va nous parler donc à travers ses poèmes, ses chansons et ses œuvres théâtrales de tout ce que l'Algérie a pu lui inspirer de sentiments contradictoires et de créations artistiques. On peut dire que les épisodes de sa vie ont été très variés, riches et parfois difficiles ou même aventureux. Alors que toute son enfance, elle l'a vécu en Algérie, au moment de la guerre d'indépendance, et bien comme elle a dû s'expatrier, comme la plupart des Français d'Algérie, ce qu'on a appelé les pieds noirs dans les années 60. La voilà donc sur les routes de l'Europe, sur ce qu'elle appelle ses chemins d'errance. Eh bien, laissons la parole à Michel. Peux-tu nous dire comment ont pu débuter tes premiers pas hors de l'Algérie ?
C'est une question un petit peu, enfin, à laquelle il est un peu difficile de répondre, d'abord en raison du temps écoulé. Mais je me souviens que des sentiments que j'avais éprouvés sur le bateau qui m'amenait d'Alger à Marseille, quand j'étais partie d'Alger, bon, c'est vrai que la France était tellement idyllique, c'était un rêve, je la connaissais pas du tout, hein, je connaissais personne en France, mais c'était un idéal, tout allait sûrement aller mieux. Mieux, etc. Donc j'étais pleine d'espoir et pleine de curiosité. Arrivée à Marseille, je vois sur les quais Pieds Noirs rentrer chez vous. Je trouvais que quand même comme comité d'accueil, oui, ça faisait un peu, c'était plutôt saumâtre quoi. En revanche, sur le quai de la gare, il y avait des femmes qui nous distribuaient des fleurs. Bon, on n'avait pas tellement besoin de fleurs, mais ça faisait toujours plaisir. Donc la première impression de la France, elle était déjà mitigée. Ensuite, j'avais la chance de ne pas payer les trains, puisque mon père était fonctionnaire, était cheminot, et j'avais donc les trains gratuits. Donc j'ai passé 8 mois, je peux le dire, dans les trains. Je dormais dans les trains, je mangeais dans les trains, je vivais dans les trains, je faisais ma toilette dans les gares, tout ça. Et je découvrais la France. Et la France, la première impression, c'est que c'est un pays vraiment vert. Il y a du vert partout. C'est vraiment un pays tout à fait vert.
Par rapport à l'Algérie, bien sûr.
Tout à fait, par rapport au plateau de mon enfance, où c'était plutôt un peu pelé, hein, où alors il y avait de grands champs de blé, mais c'est jaune, tout ça, c'est pas vert. Donc ça a été, si vous voulez, un sentiment un petit peu de plus savoir où j'étais, ça c'est certain, de chercher une identité par la culture, parce que je m'arrêtais dans des villes, je visitais les monuments, j'étais toujours très touchée par l'histoire qu'il y avait derrière ces monuments, donc je me sentais française par la culture, mais pas du tout par le cœur, quoi, c'est ça. Et donc je suis retournée en Algérie, avec la ferme intention de prendre la nationalité algérienne d'ailleurs, Puis là, je me suis rendu compte que c'était vraiment tout à fait illusoire, parce que même si moi, je me considérais comme algérienne, jamais les Algériens me considéraient comme algérienne. Donc, dès que j'ai été majeure, je me suis complètement expatriée, je suis allée en Suède, là, c'est bien, on parlait plus d'Algérie.
Oui,
il n'y avait pas de problème, j'étais étrangère à 100%, c'était génial.
Alors Michel, est-ce que toi qui as fait beaucoup de poèmes et écrit des chansons, est-ce que cette façon de t'exprimer t'a permis de témoigner plus de ton vécu, de ton ressenti, puis même surmonter les traumatismes de l'exil et de l'errance ? Alors, je sais qu'on a préparé quelques poèmes extraits de ton recueil intitulé « Les chemins d'errance ». Sur lesquels tu dépeins avec une grande sensibilité différents aspects de cette période troublée. Alors, on va écouter trois poèmes qui peignent la violence et l'atrocité de la guerre avec les massacres d'une part et de l'autre qui vont générer des ressentiments ineffaçables.
On commence par un poème que j'avais intitulé « Toute Jeanne », en fait c'est « Mélouza ». On a trouvé sur la route de Celles une rose, verdie par les émanations vitriolées de la main qui l'avait coupée. On a trouvé sur la montagne secrète un oiseau, brûlé de soufre blanc, les ailes en croix. On a trouvé, pendu sous les oliviers secs, le corps d'un ange fou. Il n'avait plus supporté le bruit métallique des roquettes. On a trouvé les fontaines sans eau, les maisons sans toit, des eaux de bêtes, des eaux de gens, des eaux mêlées, des eaux maudites. Seuls avaient échappé au massacre ceux qui auparavant étaient morts de terreur, ou ceux ivres de vie qui avaient couru vers leur dernier espoir, la forêt au grand cercle de feu, et s'étaient sacrifiés comme on offre des cierges à des dieux sans pitié. On a trouvé là-bas, sur la terre kabyle, les médailles de cruauté, les gerbes du déshonneur et les décorations de l'inhumanité.
Et puis alors, il y a un deuxième poème qui parle d'Alger, ce coup-ci, dans la même période.
Pas tout à fait la même période, mais c'est un événement effectivement qui pour moi a été tout à fait traumatisant. Je dirais qu'il a été même primordial dans toute ma vie. C'est la fusillade du 26 mars 62, lorsque l'armée française a tiré sur des pieds noirs désarmés. Et j'étais au milieu d'eux, donc j'en ai gardé un souvenir plutôt épicé.
Oui, j'imagine.
Il y avait tant de joie cependant, tant de douceur rassemblée en un seul endroit, un seul moment. Chacun pouvait croire au printemps. Il y a eu un bruit soudain, sec comme un fruit, vif comme une balle. Une balle rouge en forme de fruit qui alla se planter tout droit dans de la chair humaine, qui alla s'arroser de rivières de sang. Chacun voulait croire au printemps. Il y a eu les fuites désolées, les suppliques affolés, la moisson imbécile, des balles en forme de fruits et les hoquets de rire des fusils hystériques. Chacun devait croire au printemps. Il y a eu tant d'élans syncopés, de tournoiements stoppés, de haines enfantées, et tant d'yeux étonnés, et tant d'yeux éclatés, et tant d'yeux terrifiés qui jamais ne devaient plus revoir le printemps. Il y a eu, à la tombée du jour, la tombée des amours, la tombée des envies. Un très grand suaire rouge, lentement s'est posé sur Alger en un baiser de glace, a noyé les jardins, a noyé les douceurs, a noyé les printemps et la foule animale étrangement calmée.
Et puis ce troisième poème qui s'intitule « Les fusillés ».
Le sable a tout nettoyé. Il ne reste pas même une goutte de sang à se mettre sous la dent. On a trouvé les rebelles, on les a amenés, on les a fusillés, leur sang a bien coulé. Seul le premier n'a rien vu. Le second, ce vénard, n'en a vu tomber qu'un. Le troisième en a vu deux. Le dernier avait 15 ans. regard encore naïf, cheveux de pâtre bouclés, le Benjamin du clan. Il a vu tomber ses frères, un à un, proprement, comme dans un jeu de quilles. Il n'a même pas scié. Quand on a enseveli les corps des 10 rebelles, on n'a pas eu de mal. Il y avait de la place. De la place pour tout le monde. Le désert, c'est la loi de l'hospitalité. Pas eu besoin de pousser. Et le sable a tout lavé. Il ne reste plus trace de ces marques trop rouges. Le sable a tout pardonné. Puis, les soldats éloignés, un vent de quiétude a caressé les dunes. Le sable a tout oublié.
Donc on reprend ton parcours et arrive le moment du départ d'Algérie. Il faut quitter le pays, fuir tous les traumatismes de ce que tu as vécu, puis en plus là, après les traumatismes de l'exil et cette impression qui accable toutes les populations immigrantes, impression d'être étranger ou étrangère partout, et ce regret violent, cette nostalgie déchirante après avoir dû abandonner un pays si beau et qu'on a tant aimé. Je crois que tu as un poème encore sur le départ.
Alger, ô ma beauté, ma reine au front si blanc, avec pour te servir la mère désespérée, au cri tremblant d'amour. On n'a jamais refusé à quiconque l'âpre saveur de la défaite. J'ai bu jusqu'à la lie, jusqu'à l'ivresse, j'ai bu à nos départs, et puis je suis restée avec mes fureurs pâles, emmurée de silence, et j'ai tout regardé sans desserrer les lèvres sur un temps de pitié. J'ai bu jusqu'à la lie, jusqu'à l'ivresse, j'ai bu à mes angoisses pour ne pas m'y noyer. J'ai bu en crier à tous ceux qui ont peur, à tous ceux qui ont mal à voir se déchirer leurs souvenirs de vie, à ceux qui ont lutté et à ceux qui ont cru. J'ai bu jusqu'à la lie, j'ai bu jusqu'à l'ivresse. L'âpre saveur de la défaite, en mandala géant, épouse les formes blanches d'Alger qui se recule, qui entre en perspective sous le bleu du soleil et sur l'argent des flots. Alger, oh ma beauté, ma reine au front si blanc, avec pour te servir la mère désespérée au cri tremblant d'amour.
En écho à ce poème, on va écouter une chanson qui est un cri d'amour pour Alger, cette ville de son enfance que Michel Barbier a quittée avec certainement énormément de regrets.
Alger, la ville blanche, ses flots bleus, sa baie et ses vieux quartiers mystérieux. Alger, éblouissante de soleil, de soleil. Alger, malgré tes couleurs d'arc-en-ciel, Alger, ton blanc n'avait pas son pareil. Alger, ville de violence et de merveille, de merveille, de merveille. Alger, j'ai grandi sous tes oliviers, Alger, je ne voulais pas te quitter, Alger. Chez toi j'avais ma destinée, destinée. Alger, puis un jour il y a eu la guerre, Alger, ma jeunesse tomba en poussière, Alger, je n'étais plus qu'une étrangère, étrangère, étrangère. Alger, pourtant ma mère y est restée, Alger, elle dort dans ton éternité, Alger. Et tant d'années se sont passées, passées. Alger, depuis tant d'années c'est l'errance, Alger, dans des contrées d'indifférence, Alger. Qu'avez-vous fait de mon enfance, mon enfance, mon enfance? Thank you.
ville blanche, ses flots bleus, sa baie et ses vieux quartiers mystérieux, Alger, éblouissante de soleil, de soleil.
Voilà, et alors, en écho à cette chanson, encore deux poèmes sur ce thème du départ, le bateau qui s'éloigne, la rive qui disparaît à l'horizon, et puis la réminiscence de tous ceux qu'on a vécu dans ce pays qui s'efface progressivement.
Avoir un pays à soi, qu'est-ce que cela veut dire ? Mon pays, c'est la montagne menaçante, l'argile séchée, les champs déserts. C'est le craquement des pierres dans la nuit quand le froid tombe. C'est le soleil exigeant, féroce, qui burine les visages malgré les voiles. C'est le vent parfumé de sable qui s'infiltre dans les maisons. C'est un oued, digne et patient après l'abandon de l'eau. C'est le miracle des gouttes qui reviennent enfin pour faire croasser les grenouilles. C'est un lézard doré qui fuit gracieusement sous le perron. C'est la palmeraie du village et la pinède, et surtout la grande fierté des paysans, les abricotiers et les orangers qui chaque année leur offrent leurs parfums et leurs fruits face à l'immensité rocailleuse des plateaux. Mon pays, c'est tout ce que je suis. Oui, c'est ça, exactement. Je n'ai pas de pays, mais je suis celui-ci. Mon pays, c'est tout ce que je n'ai pas, c'est tout ce que je suis. La sécheresse ne m'appartient pas, ni la chaleur, ni les odeurs, ni les bruits, ni même l'immensité, mais je suis tout cela, et je le reconnais. Mon pays, c'est tout ce que j'ai laissé.
Et oui, et alors il y a un prolongement aussi dans une chanson qui reprend le même thème, « Je m'en vais, je m'en vais ». C'est Michel Barbier qui a écrit cette très belle chanson, très poignante, qui reprend le même thème. Michel, on t'écoute.
Je m'en vais sur les chemins de l'ombre, en quête des soleils perdus. Je m'en vais tournant le dos au monde. Je ne reviendrai jamais plus. Je n'ai rien pris dans ma valise que la douceur des nuits d'Alger, que l'écho des fleurs qui se brisent au toucher des sols calcinés. Je m'en vais sur les chemins de l'ombre, lourde de ce que j'ai perdu. Je m'en vais tournant le dos au monde, je ne reviendrai jamais plus. Ce n'est rien, dites-moi, ce bateau qui s'en va. Ce n'est rien, dites-moi, qu'un départ en vacances. C'était en juin, l'été déjà, avec ses odeurs de démence. Ce n'est rien, dites-moi, ce bateau qui recule. Ce n'est rien, dites-moi, quand on a 18 ans, on quitte un peu sa vie, avec pour tout soutien un bâton de pèlerin. Je m'en vais sur les chemins de l'ombre, en quête des soleils perdus. Je m'en vais tournant le dos au monde, je ne reviendrai jamais plus. Les heures s'écoulent comme des rivières, vers des présents bien incertains. Je ne reconnais plus ma terre, et se valent tous les chemins. Je m'en vais sur les chemins de l'ombre, lourde de ce que j'ai vécu. Je m'en vais tournant le dos au monde, je ne reviendrai jamais plus. Ce n'est rien, dites-moi, ce bateau qui s'en va. Ce n'est rien, dites-moi, qu'un futur qui commence. Alger s'ouvre, toute sa baie rangée en perles de vibrance. Cela rien, dites-moi, ce bateau bien rempli, là, cela rien, dites-moi, ces regards de malaise, 8 ans de guerre, non, cela rien, qu'un peu d'histoire en parenthèse. On croit toujours être le maître de son passé, de son futur. Entre l'être et le paraître, on s'éloigne de sa nature. Je m'en vais sur les chemins de l'ombre, lourde de ce que j'ai vécu. Je m'en vais tournant le dos au monde, je ne reviendrai jamais plus. C'est rien, dites-moi, ce bateau qui s'en va. C'est rien, dites-moi, quand on a 18 ans et qu'Alger est si blanche dans sa hauteur de reine. C'est rien, dites-moi, c'est rien. Je m'en vais sur les chemins de l'ombre en quête des soleils perdus. Je m'en vais tournant le dos au monde, je ne reviendrai jamais plus. Je ne reviendrai jamais plus. Jamais plus.
Bon. C'est donc le départ. Le départ et ensuite, eh bien, ma foi, les chemins d'errance sur lesquels on ne retrouve jamais tout à fait ses marques. Et c'est ce qu'exprime le poème suivant qui est intitulé « Identité » et qui sort du même recueil, le très beau recueil de poèmes qui s'appelle lui-même « Les chemins d'errance ».
Ma peau est blanche, certes, mais je suis faite de ces sables, de tous ces rochers implacables, qui le reconnaîtra. Étrangère par ma langue, mais par mon cœur, mon sang, ma vie, je bats au rythme de ce pays. Qui le pardonnera? On m'a tout dit des jours immenses. On m'a dit des lacs, des prairies, des châteaux perdus dans les bois, des étangs durcis par le froid, et puis la ville aux 19 ponts, les cathédrales à l'orgueil blond et les statues des rois de France. Et on m'a dit champs et tournois, de Roncevaux jusqu'à Verdun. Oui, j'ai feuilleté un à un les manuscrits des monastères, les plus beaux fleurons littéraires et la déclaration des droits. Et j'ai aimé éperdument la petite Jeanne, la bergère qui a su vaincre la misère d'un pauvre roi désabusé qui ne croyait qu'au bilboquet, et Ronsard, et Baudelaire, et Verlaine. Mais je suis pétrie de ceux seuls. Ma chair est faite de ces argiles et de ces rochers implacables. Étrangère par mes mots, mais par mon cœur, mon sang, ma vie, je bats au rythme de ce pays. Qui le reconnaîtra? Qui le pardonnera?
C'est très beau, et avant qu'on passe une de tes chansons, L'étrangère, j'aimerais t'interroger quand même sur cette sensation qu'ont beaucoup de rapatriés d'Algérie ou de gens qui ont quitté leur pays et qui se retrouvent étrangers sur un autre sol. Je sais pas si tu peux nous dire quelque chose, parce que c'est tellement personnel probablement ces sentiments et,
oui,
et c'est difficile.
C'est personnel et collectif, je crois que tout le monde a éprouvé à peu près ça, c'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler que les Pieds-Noirs ont été très très mal accueillis en Algérie. Ils étaient accueillis presque comme des ennemis. Donc, pour des gens qui avaient défendu la France, c'était un peu difficile à accepter, et on se sentait quand même rejeté. On se sentait rejeté, on se sentait pas bien accueilli, et on avait l'impression qu'on avait quand même, en tant que Français, on avait quand même toute notre place dans ce pays qui finalement nous refusait.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la plupart du temps, la plupart des pieds noirs se sont bien intégrés, ils ont retroussé leurs manches, ils ont refait leur vie, donc tout s'est bien passé. Et puis, d'autres, comme moi, ont choisi finalement de quitter complètement la France et de partir se ressourcer dans un autre pays pour finalement pour accepter d'être complètement étranger et sans avoir ce malaise identitaire. Si je suis revenue en France, d'abord c'est par le biais de Joséphine Baker qui m'avait ramenée à Monaco d'abord, et puis ensuite je suis rentrée dans le milieu artistique et encore plus dans le monde du cirque. Alors là c'est un milieu complètement international, on n'a pas besoin de se sentir accroché. Mais enfin il reste quand même toujours, je dois te dire très sincèrement, toujours un sentiment de non-appartenance à un pays.
Et sur ces chemins d'errance, il y a aussi ces gens que tu as rencontrés, en particulier dans le monde du cirque, ces gens du voyage,
qui aussi,
pour lesquels tu as ressenti un sentiment de confraternité.
Ah oui, tout à fait. C'est pour ça que bon, j'ai vécu quand même plus de 30 ans dans le monde du cirque. Après, dans le monde du voyage, j'ai vécu en caravane, tout ce qu'il fallait, quoi, la panoplie complète. Mais j'étais très à l'aise parce que c'était des gens qui avaient justement, parce qu'ils n'étaient pas attachés aux choses, ils n'étaient pas attachés aux régions, ils étaient attachés à l'essentiel, c'est-à-dire la famille, la vie, soi-même. Le travail bien fait, la rigueur, donc les vertus essentielles et non pas la course à l'argent, la course à les pattes, etc. Donc j'étais très à l'aise, peut-être avec à cause de ce sentiment d'itinérance que j'éprouvais moi-même.
Oui, tu as d'ailleurs écrit de très beaux poèmes sur et de très belles chansons sur ces gens, sur cette période-là. Bon, c'est pas le thème de notre émission d'aujourd'hui, mais on l'a passé d'ailleurs une précédente émission qu'on avait fait avec toi.
Tout à fait, les Romanies.
Les Romanies, voilà, sur le cirque. Eh bien, écoutons maintenant cette chanson de Michel Barbier, L'étrangère.
Avec vous, loin de vous, je suis ici, pourquoi? Je ne me comprends pas. Avec vous, avec moi, loin de moi, le monde m'est ouvert, je puis aller partout, mais partout j'erre. Une étrangère, étrangère à partout, avec vous, loin de vous, tout me paraît égal, tout est égal. J'ai quitté mon pays et j'ai brisé ma vie, guidée par l'espoir fou. Être bien chez vous, refusant les colères, pourchassé par la guerre, j'ai recherché ici une harmonie, mais je n'ai rien trouvé qui m'apporte la paix, le bonheur d'une vie sans nostalgie. Étrangère partout, avec vous, loin de vous, tout me paraît égal, tout est égal. Errante du hasard, j'ai bridé ma mémoire, sacrifié tous les miens au nom du destin. Je voulais vous donner nos plus riches beautés, vous m'avez dédaigné et méprisé dans votre monde ouvert. Je puis aller partout, mais partout où j'erre une étrangère, étrangère partout, avec vous, loin de vous, tout me paraît égal.
Et bien sûr, dans tous ces voyages à travers l'Europe, l'adaptation aux grandes villes du continent que Michel Barbier a traversé est difficile. Alors parce que les bruits, les odeurs, les rythmes de vie, le comportement des habitants, tout est différent de ce qu'elle a pu vivre de l'autre côté de la Méditerranée, bien entendu. Michel, tu as découvert Paris, entre autres. Et dans la chanson que nous allons écouter maintenant, puisque nous allons écouter une autre chanson, une autre très belle chanson, tu règles un peu tes comptes, non, avec cette mégapole qu'on peut dire passablement inhumaine.
Bah, écoutez, hein, à l'époque, j'avais 18 ans, j'avais bien le droit d'avoir quelques petits coups de sang quand même. Hein. Donc c'est vrai que Paris, c'était la ville tellement idéale pour moi, et puis finalement, j'avais envie de lui dire tout ce que je reprochais à la France en général. Quoi. C'est ce sentiment d'être rejeté de ce qu'on aime le plus.
Oui, bien sûr. Et c'est vrai que c'est pas dans Paris.
Et quand on a 18 ans, on est souvent sans nuance. D'ailleurs, c'est bien. On devrait toujours rester comme ça.
Bien, mais cette chanson s'intitule Paris, d'ailleurs, donc on l'écoute.
Paris, tu ne m'as pas prise dans tes bras. Paris, j'aurais pourtant tout fait pour toi. Paris, mais ça ne t'intéressait pas. Je suis profane. Toutes ces rues, ces avenues, ces inconnues, je suis perdu. Paris, dans mon pays, comment t'aimer, Paris. Mais tu nous attends dédaignés, Paris. Toujours drapé dans ta beauté de courtisane. Superbe statue grave et muette pourtant, qui ne saura jamais mes doutes importants. Paris, tu ne m'as pas prise dans tes bras. Paris, pourquoi ne m'acceptes-tu pas? Paris, tout est si grand, je ne sais pas, et la vie fane. Toutes ces rues, ces avenues, ces inconnues, je suis perdu, je n'en peux plus. Paris, si tu voulais faire un effort, Paris, je te pardonnerai encore, Paris. Car malgré tout, tu es mon port, ma promenade. Dans mon exil, rien n'est facile. Toutes ces rues, ces avenues, ces inconnues, ça me tue. Superbe statue grave et muette pourtant, qui ne saura jamais mes doutes importants. Paris, je voudrais tant me reposer, Paris, avoir l'illusion d'un foyer, Paris. Regarde, je suis fatiguée de mon errance. Dans mon exil, rien n'est facile. Toutes ces rues, ces avenues, ces inconnues, je suis perdue, je n'en peux plus. Paris,
Tu ne m'as pas prise dans tes bras, Paris. Je t'en prie, ne me déçois pas, Paris. Je t'en supplie, regarde-moi, car la vie fane. Accepte-moi.
Et bien après toutes ces considérations poétiques et très belles sur le départ, la difficulté d'être intégré dans un nouveau pays, revenons à une période antérieure avec ce qu'on pourrait appeler l'épisode Germaine Tillon, qui se passe au moment de la guerre, bien sûr, d'indépendance, puisque Michel Barbier s'est beaucoup penché sur cette personne assez remarquable, qui était Germaine Tillon. Et on va lui laisser la parole donc pour nous expliquer, un petit peu nous parler de Germaine Tillon et nous dire ce qu'elle en a fait au point de vue théâtral. Michel.
C'est-à-dire que pendant de nombreuses années, j'avais baissé le rideau quoi sur l'Algérie. Ensuite, j'étais retournée en Algérie et puis j'ai commencé à vouloir comprendre ce qui s'était passé véritablement. Donc, j'ai fait des recherches, j'ai beaucoup lu, je me suis documentée comme j'ai pu et effectivement, j'ai pu m'ouvrir à des horizons qui m'avaient totalement échappé quand j'étais d'abord parce que j'étais très jeune et puis ensuite parce que il y avait un tel endoctrinement aussi bien en France qu'en Algérie qu'on n'arrivait pas à véritablement à avoir une vision claire des choses, pas plus qu'on le fait maintenant d'ailleurs. On commence peut-être à lever le voile, mais c'est encore très 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 difficile. Il y a eu des siècles, il y a eu des années d'endoctrinement, de chape de plomb et puis de falsification de l'histoire, de justificatifs, tout ça. Maintenant il est peut-être temps d'arriver à une lecture beaucoup plus apaisée et de voir, de considérer les deux points de vue et pas seulement un point de vue ou par rapport à un autre et un autre et un autre, parce qu'il y a le point de vue des pieds noirs bien sûr, mais il y a le point de vue des indépendantistes évidemment, il y a le point de vue des militaires, il y a le point de vue des communistes, le point de vue des intellectuels, enfin bref, tous ces points de vue se heurtent.
Du politique.
Bien entendu, donc tout ça ça fait un horrible magma, alors qu'en fait je pense pour ma part que la guerre d'Algérie a surtout été une guerre de passion. Et je me suis intéressée particulièrement à des personnages que j'ai découverts au long de mes recherches. D'abord, j'avais écrit un livre sur Henri Bourgeot, qui est resté le symbole du colonialisme français en Algérie, ce qui est une étiquette facile pour un homme qui ne méritait pas autant de dénigrement. C'était vraiment tout à fait absurde, mais c'était circonstanciel. Ensuite, dans ces découvertes, dans ce parcours, j'ai rencontré Jacques Chevalier. Alors Jacques Chevalier était le maire d'Alger. J'avais 14 ans à l'époque, j'étais sur le forum avant que le général de Gaulle arrive, là, quelques jours avant. Et puis, comme tout le monde, je criais « Un mort chevalier, un mort chevalier !» Bon, je ne savais pas pourquoi, mais enfin, comme tous les grands disent « Un mort chevalier », c'est qu'il était un méchant, c'est sûr. Et là, je me suis vraiment intéressée en étudiant le parcours politique d'Henri Bourgeot. Évidemment, Chevalier, c'était son adversaire politique.
Bourgeot qui était sénateur, lui.
Qui était sénateur, oui, qui était un homme extrêmement puissant, d'ailleurs. Et mais son rival, en quelque sorte, c'était Chevalier. Et là, j'ai découvert un autre aspect qui m'avait totalement échappé et pour lequel j'ai éprouvé beaucoup de sympathie, bien sûr avec le recul, parce que à l'époque, non, on était pris dans une telle mouvance émotionnelle qu'on était incapable vraiment de juger. On suivait comme des boutons, quoi. Et Jacques Chevalier, je viens de sortir d'ailleurs un livre aux éditions Rive-Neuve, c'est ce qu'on appelait un libéral. Alors c'est quelqu'un qui, au départ de sa vie politique, était très très attaché à l'Algérie française, beaucoup plus que Bourgeot d'ailleurs, très intransigeant sur les principes. Et peu à peu, il s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une autre solution à trouver, qu'il y avait peut-être un dialogue à entamer avec ce qu'on appelait les musulmans, parce qu'en Algérie, il n'y avait pas d'Algériens, hein, il y avait des Européens et des musulmans, donc... Et il s'est attiré l'opprobre, non seulement des Européens d'Algérie, qui le considéraient comme un collaborateur avec les ennemis indépendantistes, mais aussi des indépendantistes qui le considéraient comme un néocolonialiste. Et effectivement, parce qu'il cherchait à obtenir une certaine autonomie du pays, ce que souhaitait d'ailleurs Ferhat Abbas, mais dans le cadre français. Toujours sous influence française. Or, pour les indépendantistes, il n'était pas question d'avoir le moindre contact avec la France. Ils réclamaient l'autonomie pure et dure. Donc, c'est un homme qui a été incompris, qui a fait beaucoup de choses. D'abord, il a construit énormément de choses dans Alger. Alger porte définitivement son empreinte. Et puis, en 1958, donc lorsque le général de Gaulle est arrivé, qu'il y a eu l'avènement de la Ve République, donc Alger était passé sous le contrôle des militaires. C'était le comité de salut public qui avait pris les commandes de la ville. Donc il s'est retrouvé en France avec dans une entreprise immobilière. Il était exclu de la vie politique et d'ailleurs il en souffrait beaucoup. Et après l'indépendance, il est revenu. Et il a pris la citoyenneté algérienne et il a continué son travail de construction avec l'architecte Fernand Pouillon. On lui doit tous les centres balnéaires qui existent encore. Mais malheureusement, lorsque Ben Bella est parti du pouvoir et que Boumediene est arrivé, Boumediene a freiné tout ce qui était développement touristique. Bon, il y avait d'autres problèmes à régler en Algérie, il trouvait que c'était pas essentiel, donc tout a été stoppé. Et puis, entre autres, par Jacques Chevalier, j'ai donc aussi découvert ce qu'on a appelé les libéraux, ce qui n'a rien à voir avec le libéralisme économique actuel, mais c'est-à-dire les gens qui avaient un esprit un peu plus ouvert sur tout ce qui se passait, entre autres Albert Camus.
Oui.
Qui en est l'exemple numéro un. Albert Camus, qui, n'oublions pas, a été conspué en Algérie pendant la guerre.
Oui, et qui a écrit les chroniques algériennes. Et c'est vraiment quelque chose à dire si on veut se rendre compte de l'état d'esprit des individus à cette époque-là, aussi bien des Européens que Ferhat Abbas et autres Algériens qui...
Oui, tout à fait.
C'était pour une indépendance du pays sans qu'elle soit vraiment sans passer par ces épreuves terribles que l'Algérie a subies ensuite.
Oui, tout à fait. Ferhat Abbas faisait partie. Il a rejoint après le FLN, bien sûr. De toute façon, il n'avait pas le choix. On avait assassiné son neveu là pour l'intimider. Donc, mais avant, il était pour une sorte de fédéralisme et dans ce sens, Chevalier et Borgeot ont défendu. Chevalier et Ferhat Abbas ont défendu le même parcours, enfin la même espérance. Et puis j'ai rencontré aussi le Gerben Tillion. Alors, Germaine Tillion, tout le monde la connaît comme une grande résistante. Oui. Elle a parlé avec énormément d'émotion et d'humour, ce qui apportait encore plus à son témoignage des camps de concentration nazis dans lesquels elle avait été enfermée. Et Germaine Tillion était ethnologue. Et avant la guerre d'Algérie, elle avait déjà fait de longs séjours en Algérie. Elle avait vécu avec les populations berbères et les populations, elle avait vraiment vécu avec eux. Elle les connaissait très bien. Et quand Jacques Soustelle était gouverneur général de l'Algérie, il lui a demandé d'être chargée de mission. Et son rôle consistait à ouvrir des centres sociaux, c'est-à-dire à essayer de pallier l'extraordinaire misère qui existait quand même dans la population musulmane. Et ça a commencé à porter ses fruits. On commençait à avoir une pacification, c'était en 55 et début 56, dans 55, pardon. Et puis malheureusement, le FLN, qui était donc la force d'opposition principale, qui avait pris d'ailleurs toutes les commandes de la lutte pour la libération de l'Algérie, a voulu frapper un grand coup pour mettre fin à cette réconciliation qui semblait
possible.
Qui semblait possible, voilà. Donc il y a eu le massacre du village d'El Alia, qui s'appelle Skikda maintenant, je crois, suivi du... ça a été abominable, un massacre odieux, horrible. Et puis il y a eu 89 morts, sans compter les blessés, bien entendu. Et en répression, il y a eu 8000 morts du côté musulman. Donc c'était toujours une répression disproportionnée par rapport aux sévices qu'avaient subis les Français. En arrivant sur les lieux, Jacques Soustelle avait été bouleversé. Et là, il a complètement changé d'avis. Et il s'est engagé vraiment dans la lutte pour l'Algérie française. Parce qu'il pensait qu'il ne fallait pas laisser l'Algérie à des sauvages qui allaient tuer la population musulmane. Enfin bref, c'était... Et Jean Matignon, ce n'était pas du tout son objectif. Elle était plutôt pour le dialogue. Donc elle a été contactée. Donc Jacques Soustelle, bien entendu, a été limogé et remplacé par Lacoste, qui lui a fait venir le contingent, et puis la guerre s'est considérablement durcie à ce moment-là. Et Germaine Tillion a écrit une petite brochure, plutôt un fascicule, qui s'appelait « L'Algérie en 57 », où elle donnait quelques avis, qu'elle préconisait ce qu'il fallait faire pour améliorer le sort de tout le monde, finalement. Et en lisant cette brochure, le chef du FLN à Alger, qui s'appelait Yassef Saadi, a voulu la rencontrer. Et elle a accepté de le rencontrer, n'oublions pas, en pleine bataille d'Alger, à la Casbah, alors qu'il se terrait dans une cachette, avec tous les parachutistes autour qui le recherchaient. Et Germaine Tillion l'a donc rencontré à deux reprises. D'abord, elle l'a rencontré au mois d'août, et là, Yassef Saadi lui a dit « Si la France ne procède plus à l'exécution capitale des condamnés à bord, des terroristes, qu'on appelait terroristes, si on les considère finalement comme des résistants, mais pas comme des terroristes, nous arrêtons tous les attentats contre les civils en Algérie. » Bien. Alors, Germaine Tillion est allée à Paris, elle a plaidé cette cause, bien entendu, et puis les exécutions ont eu lieu. Donc, elle est revenue, elle a revu Yassef Saadi pour avouer son échec et voir effectivement il n'y avait plus rien à faire. Maintenant la guerre était complètement engagée, et même avec le rappel du contingent, elle allait devenir beaucoup plus difficile, et certainement avec une issue inéluctable. Donc voilà, c'est ces deux rencontres que j'ai voulu mettre en scène, parce que je crois que maintenant on doit parler, comme je le disais tout à l'heure, on doit parler de la guerre d'Algérie avec recul. Et on doit parler en voyant les deux choses. Et là, il m'a semblé que les deux points de vue, Germaine Tillion qui défendait l'ordre français, bien entendu, et puis Yassef Saadi qui disait pourquoi il voulait plus être français, toutes ces personnes étaient de bonne foi. C'était la situation qui était inextricable, quoi. C'était pas possible de continuer comme cela. Et d'où cette montée de la violence. Donc c'est pour ça que j'ai écrit cette pièce, parce que j'ai trouvé qu'elle était tout à fait significative de tous les problèmes, de tout cet aspect nauséabond de l'Algérie auquel personne ne comprend rien, hein. Parce que faute d'avoir justement bien étudié, et parce qu'on est resté sur des clichés.
Oui, puis moi j'ai retenu ce que disait aussi, ça rejoint hein, Germaine Tillion, ce que disait Camus, c'est qu'il y avait trois problèmes en Algérie. C'était d'abord la famine, et donc il aurait fallu faire des routes, amener l'eau, permettre l'agriculture. Il y avait un problème d'enseignement, parce que les enfants étaient très très nombreux et que effectivement il n'y avait pas assez d'écoles. Et puis le problème général de mésentente, d'incompréhension, quoi, entre les peuples. Et...
Oui, enfin là, vous vous référez bien entendu aux chroniques algériennes qui ont été écrites.
Oui, c'était avant, c'était avant. Mais je pense que dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'endroits, on retrouve les mêmes raisons de faire la guerre.
Oui, tout à fait. Mais je crois que ce qu'il y a, c'est, il y a toujours deux tabous essentiels dont on ne parle jamais quand on parle de l'Algérie et qui pourtant étaient fondamentaux. D'abord, c'est la population qui s'accroissait de plus en plus. Il y avait une explosion démographique, ce qui fait que quelquefois, quand on construisait une école avec trois classes, il fallait déjà six classes quand elle était construite. Donc, il y a eu ce problème qui est véritable aussi. Et puis, le problème aussi, le problème de l'islam par rapport au système français. C'est pour ça qu'il y a eu le double collège à l'Assemblée algérienne, c'est-à-dire les élus du premier collège qui obéissaient aux lois françaises et puis les élus du deuxième collège qui obéissaient au Coran, aux lois coraniques, souvent incompatibles avec avec les lois de la France. Et c'était déséquilibré parce que cette mesure, qui en principe était une mesure d'égalité, est devenue très vite une mesure d'inégalité. Parce que comme il y avait 9 fois plus de musulmans que de Français, une voix musulmane valait une voix française valait 8 voix musulmanes. Donc ça tenait pas debout, toute cette histoire. Donc il y a ce problème aussi qu'il faut tenir compte quand vous pensez que l'Algérie était, il y avait 1 million à peu près, hein, moins d'un million de musulmans quand la France est arrivée en 1830. Quand elle est partie, il y avait 10 millions. Maintenant, elle est à 48 millions. Donc c'est quand même un accroissement démographique qui n'est pas sans conséquence sur le pays lui-même, sur le développement qui, même s'il y avait un développement, il n'était jamais assez rapide. Et puis les problèmes de l'incompréhension. N'oublions pas que même le FLN, hein, au départ, les premiers tracts, c'était au nom de l'islam. Hein. L'islam comme refus du système français. Ouais. C'était pas comme maintenant l'idéologie islamique qui est utilisée depuis Roménie d'ailleurs. Ouais. Mais non, c'était l'islam comme identité culturelle en opposition au système français. Donc c'était très très fort comme opposition.
Oui, effectivement. Et alors, c'est vrai que à cette période-là, quand même, dans les deux camps, je pense qu'il y a des personnes qui ont essayé peut-être d'établir une sorte de couvre-feu, quoi, et de compréhension. Dont Germaine Tillion, bien entendu. Ça, malheureusement, n'a rien donné.
Et Jacques Chevalier. Jacques Chevalier, qui, dans son équipe municipale, a pris des gens qui étaient connus pour être déjà des maquisards. Donc, il avait voulu faire une grande ouverture à toutes les tendances en disant ici on discute de la ville, on discute pas d'idéologie, mais c'était aussi une façon de mieux se connaître et de mieux connaître les problèmes de l'autre au lieu de rester figé dans des réactions brutales et des réactions uniquement de ce qui se faisait, quoi.
Non, et puis on se rend compte qu'à chaque fois que l'armée est arrivée, ça posait les problèmes dont tu parlais, les massacres d'un côté, les massacres de l'autre, ça a été abominable et c'était la course finalement.
Ben oui, mais si l'armée n'était pas venue, les massacres auraient été beaucoup plus grands. Ils auraient été beaucoup plus grands, bien sûr. Donc voilà.
C'est très compliqué. Voilà.
Oui, alors il faut dire donc que tu as fait une pièce de théâtre que tu joues toi-même, que tu as joué même jusqu'à hier au Théâtre du Nord-Ouest, et que tu vas présenter aussi
à Avignon, voilà, au Théâtre des Amants. Je suis très contente, d'abord avec un théâtre qui a un nom pareil, c'est quand même de bon augure.
Ah oui. Mais
et ça va être donc du 8 au 30 juillet, les jours pairs.
D'accord. Bon, mais je pense que ça, je te souhaite que ça...
Ah ben, je me le souhaite aussi, parce qu'Avignon, c'est difficile.
Ah, c'est très difficile. Oui. Il y a beaucoup de concurrence, c'est beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Non, mais faut partir
avec espoir. Oh, c'est pas Avignon d'autrefois. Autrefois, c'était bien. Il y avait 30 troupes dans le off.
Oui, c'est ça.
Maintenant, il y a 1600 spectacles. Est-ce que vous voulez? Bon. Oui. Ça a perdu un petit peu de son originalité, mais c'est toujours un défi,
oui,
quand même.
Effectivement. Bien, je pense qu'on arrive vers la fin de notre émission. Je pense qu'on a appris pas mal de choses sur cette période de l'Algérie, où quand même, toi, tu as été une observatrice particulièrement...
Motivée, oui.
Motivée et bien placée, quoi, pour donner des des idées pour, que tu as traduit en chanson, en poème et en ouvrage qu'on peut dire historique, quoi.
Oui, j'ai fait un autre ouvrage qui s'appelle Nouvel Adieu, où je raconte justement mon dernier séjour en Algérie en 88, où là j'ai pris la décision. Enfin, je dois dire que je retournerai jamais plus en Algérie parce que maintenant c'est un pays étranger qui a sa vie. J'ai plus rien à faire là-bas. Donc la page s'est définitivement tournée. Voilà. Ce qui m'a donné beaucoup plus de liberté intellectuelle pour continuer mes recherches sur l'histoire de cette époque.
Certainement. Eh bien, on va terminer avec une chanson qui reprend un petit peu ses thèmes, puisqu'elle s'appelle elle-même Les Chemins d'errance. Voilà, et nous allons dire au revoir à nos auditeurs sur cette chanson.
Au revoir et merci de votre écoute.
Mais où tant de fois se brisent nos joies, nous ne disons rien, nous les autres. Qu'ils soient maghrébins ou bien bohémiens, gens du voyage sonnent sans bagage à notre porte. Ils fuient la misère, la folie des guerres, des persécutions par les hommes qu'ils aient peur. Leur la main avec compassion. Ce sont des hommes. D'autres lueurs qui dansent dans leur cœur, ils nous les donnent pour peu qu'on leur propose de respirer nos roses. Leur âme est bonne au long de leur voyage, ils sont devenus saints. Qu'ils aient peur, qu'ils aient faim, s'ils nous tendent la main, c'est pour offrir leur ferveur. Pavé d'espérance et d'amour, pétri de souffrance, ombré de croyance et d'amour, chemin de l'exil où rien n'est facile. Oublions nos peurs.
main. La 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 la. La 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 la